Notre tour d'horizon des élus du territoire en ce début d'année. On parcourt le pays fléchois, on va dans le Sud-Sarthe et aujourd'hui, celui qui est avec nous est le maire de Mareuil-sur-Loire, Jérôme Prémartin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le bilan de l'année écoulée et surtout, ce qui est intéressant, se projeter parce qu'on court... On parcourt des temps un peu agités ces temps-ci, donc on va voir quelle hauteur d'esprit vous avez. Est-ce qu'on va être toujours dans cette sinistrose ambiante ou alors on va s'élever un peu et se donner de l'air? Vous nous direz ça dans quelques minutes. Mais avant, nos meilleurs voeux à vous ainsi qu'à tous les habitants de Mareuil. On les appelle comment?
Les Mareillais.
Les Mareillais.
Et les Mareillaises.
Et les Mareillaises. Comment ont-ils vécu 2022?
Eh ben 2022 s'est bien passé, avec une bonne reprise des activités festives du village et des animations des associations, avec notamment le retour de notre fête patronale, c'est un petit peu notre 14 juillet annuel, qui a attiré plus de 200 convives, je crois qu'on était aux alentours de 230-250 convives le dimanche midi, et la veille il y avait eu le traditionnel... retraite au flambeau, défilé, bal populaire et feu d'artifice. Et puis on a accueilli également Festiloire cette année, qui a attiré beaucoup de monde aussi.
Festiloire avec le Pays Vallée du Loire, notamment. Oui. Donc une année 2022 qui a été aussi été marquée par l'après-Covid, si j'ose dire,
oui.
Si on en est sorti.
Oui. Je pense que
c'est derrière nous.
On tient le bon bout, là.
Bon, on partage votre optimisme.
Tant mieux.
Oui. Et comment vous l'avez passé, ce cap-là, parce que ça a eu des impacts, des incidences sur la vie de tout un chacun, et même sur la vie des collectivités?
Eh bien, au niveau de l'école, c'était le plus compliqué, hein. Un peu moins en 2022 qu'en 2021, mais il y avait toujours quelques précautions. Là, maintenant, on en est sorti. Il y a plus de distanciation, de masques, plus d'isolement de classe à classe. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, au niveau des administrés, bon, il y a encore quelques personnes âgées qui conservent le masque, qui souhaitent, des personnes fragiles qui souhaitent conserver le masque. Et puis encore, on constate encore des personnes quand même qui ne sortent plus depuis le Covid par rapport à leurs activités d'avant Covid. Et notamment les associations qui ont bien maigri en termes d'adhérents, quoi.
Ça, c'est... très dommageable pour la vie en collectivité, au sens large du terme. Ça veut dire que il faut que vous redoubliez d'efforts pour que cette vie ensemble puisse revenir.
Oui, pour mobiliser, ouais, faut revenir aux essentiels, je dirais, de la vie, les moments de partage, de convivialité. Dès qu'il y a un petit événement, faut pas hésiter à organiser un pot de l'amitié après, et surtout le dire et l'annoncer, ça attire du monde, et puis innover, quoi.
Alors, Jérôme Prémartin, on le sait tous, avec les bouleversements du Covid, l'impact social, vous venez de l'évoquer, il y a également eu un impact économique. Certains qui étaient des indépendants ont dû éprouver un temps, on va dire, compliqué. Est-ce que, au niveau de la commune, au niveau du centre communal, du centre social communal...
Le centre communal d'action sociale.
C'est ça.
Eh bien, écoutez, cette année, en termes de bénéficiaires, je dirais, ça n'a pas augmenté et on a même plutôt moins accompagné que les années d'avant parce qu'il y avait moins de besoins. Il y avait moins de besoins en 2022 qu'en 2021. En 2021, on a beaucoup accompagné d'administrer sur des aides de paiement de factures d'électricité ou d'eau, ou de l'accompagnement alimentaire. Là, ça a été moins le cas parce qu'on suit beaucoup plus les dossiers, on les aide à gérer vraiment leur budget. Donc, il y a eu moins d'accompagnement financier, plus d'accompagnement, je dirais, dans les démarches administratives. et avec une gestion plus bénéfique pour les personnes touchées.
Et donc, ça veut dire que il y a un besoin d'accompagner cette mutation, parce que quand vous évoquez cet accompagnement-là, aujourd'hui, on le sait tous, c'est la dématérialisation qui est le lot commun pour tous, et on s'aperçoit qu'au niveau de l'usage, on n'est pas tous égaux.
Ah ben non, effectivement, il y a encore beaucoup de chemin à faire, même, je dirais, chez les personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Je dirais que ceux qui ont la trentaine se débrouillent bien, et on constate quand même quelques jeunes post-ados, 18-22 ans, qui ont du mal, qui utilisent pas tout à fait correctement les outils numériques, et qui ont du mal à s'y retrouver dans leur démarche sur le net, je dirais.
Et là, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Est-ce à titre communal ou au titre de l'intercommunalité ?
Eh bien, à titre communal, ça avait été mis en place en 2021, l'écran numérique, qui est un espace numérique vraiment accessible à la mairie pour tous, où les gens peuvent être autonomes ou on les accompagne. On a notre site internet qui avait été lancé début 2022, donc qui lui est opérationnel et qui demande juste à vivre, à être nourri. Et toujours, là au niveau intercommunal, toujours le service civique, les connectés. Donc c'est trois jeunes qui viennent tous les lundis matins à la mairie de 10h à midi ou de 10h30 à midi, je ne sais plus. Et donc là, n'importe quelle personne de Marais ou même de la communauté de communes, ça dépend des horaires puisqu'ils vont sur plusieurs communes, quasiment toutes les communes je crois. Donc les habitants peuvent venir sur ce créneau-là, et à partir de cette année, c'est une nouveauté, ils se déplacent aussi à domicile, donc on peut prendre rendez-vous avec eux. Donc je rappelle ça parce qu'on a un petit peu moins de fréquentation que les années précédentes, donc c'est important de le rappeler, que les gens n'hésitent pas à venir pour n'importe quel usage, téléphone, tablette, ordinateur, internet, tout ce qu'ils veulent au niveau du numérique.
Et est-ce que vous avez une explication par rapport à cette demande qui est moins importante ? Est-ce aussi la résultante de ce que vous évoquiez plus tôt en disant « bah oui, il y a moins de sociabilisation, les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes »
Il y a peut-être, oui, le fait justement qu'il soit mis le déplacement des services civiques à domicile, je pense que c'est justement... un isolement des gens, enfin les gens, il y a peut-être une part de la population maintenant en France qui est plus individualiste qu'avant Covid, malheureusement. Le confinement n'a pas eu que du bon.
Et ça, comment on peut inverser le cours des choses ? Qu'est-ce que vous disiez, profiter de...
Oui, des moments de convivialité. Là, vous voyez, au vœu du maire, donc à Marais, on était avec l'équipe municipale agréablement surpris de l'affluence. On s'attendait plutôt à 80 ou 100 personnes. On a dépassé les 130 personnes. On était entre 130 et 150. Donc c'est une belle affluence. Ça faisait pas mal d'années qu'il n'y avait pas eu ça au vœu du maire à Marais.
Ça a dû vous faire chaud au cœur de voir autant de monde.
Oui, vraiment, et beaucoup de nouveaux habitants qui étaient présents. Tout le monde était content, donc c'est ce que j'ai dit dans mon discours, revenir à ces moments de partage, c'est ça faire société.
Faire société, en ces temps agités où on parle, Jérôme Prémartin, d'inflation, de hausse des prix de l'énergie, de la guerre en Ukraine. Et quand on entend dans l'actualité, avant que vous veniez, j'écoutais les infos, on annonce que même les GAFAM qui commencent à dégraisser, on se pince parce qu'on se disait, bah oui, c'est pour nous le commun des mortels, mais pas les GAFAM, quoi. Google, Amazon, oui. Facebook et autres.
La crise... Elle se traverse, c'est difficile, mais elle se traverse. En tout cas, pour ce qui est de Marais, toutes les augmentations, je dirais, de matières premières, d'énergie, On l'a vu, alors moins sensiblement que par exemple une commune comme La Flèche, puisqu'on est dans le cadre des tarifs réglementés, nous, au niveau de nos contrats d'électricité. Donc on n'est pas trop touché. Néanmoins, on fait des efforts au niveau du chauffage de nos bâtiments, au niveau de l'électricité, nos consommations, notamment l'éclairage public. On a encore réduit nos plages horaires d'éclairage, hein, on éteint à 20h30 maintenant. Donc on fait les efforts, on l'explique aux habitants et les habitants comprennent, il n'y a absolument aucun retour négatif. Ça aurait été quelques années en arrière, je pense que pas que ça aurait été le cas, mais il n'y a pas de retour négatif, au contraire les gens accueillent ça positivement puisqu'on explique que... Bah, tout le monde est dans le même cas, les problèmes rencontrés par les habitants sont partagés par les collectivités et inversement, et donc chacun doit prendre sa part de l'effort. Nous, on fait ce choix d'avoir une gestion, je dirais, optimisée et rationnelle et de bon sens, plutôt que de dépenser un peu sans compter et d'augmenter les impôts, de toucher la fiscalité. On essaie, autant que faire se peut, de préserver le pouvoir d'achat de nos citoyens qui sont déjà bien éprouvés. Et ils nous le reconnaissent. Ils nous le reconnaissent tout simplement, j'en reviens au vœu, en venant nous voir. Il y a quand même une satisfaction qui est là.
Et est-ce que pour vous, c'est également l'occasion, puisque vous parliez d'optimisation, de revoir de fond en comble nos pratiques, quelles qu'elles soient, pour les mettre en accord. Je sais qu'il y a quelque temps, vous me parliez du développement durable en disant « pour vous, ce n'est pas juste un slogan à plaquer, ça et là ».
Oui, alors pour parler de développement durable, au niveau de la commune de Mareuil, on va mettre en place, par exemple pour l'entretien de certaines parcelles, de l'éco-pâturage à partir de cette année. C'est moins de frais de fonctionnement, c'est moins de carburant, d'engins thermiques pour procéder à l'entretien de ces parcelles. Et puis c'est bénéfique pour la biodiversité et c'est bénéfique aussi pour l'agriculteur qui va bénéficier de ces parcelles. Et puis on va réaliser également des audits énergétiques sur l'ensemble des bâtiments communaux, des audits énergétiques vraiment très poussés pour avoir des perspectives de travaux à l'avenir, pour réaliser des économies et de consommation et de sous, tout simplement. Donc on espère pouvoir installer des panneaux solaires, par exemple, sur la toiture de la mairie, de l'école, ou les ateliers municipaux, par exemple. Revoir également, parce qu'on parle d'éclairage public, mais il y a aussi l'éclairage intérieur de nos bâtiments qui sont très énergivores actuellement. Donc, il y a, à mon avis, des économies à faire là-dedans et tendre vers l'autonomie des consommations de nos bâtiments, production, consommation directe. Peut-être même qu'on aura du plus. Mais on va aller vers ça. Et puis pour cette année, c'est programmé également la rénovation intégrale du parc d'éclairage public en LED. Il y a une partie déjà en LED, mais il en reste bien à faire et on va procéder à la rénovation de l'ensemble de l'éclairage public de la commune.
Je vois sur... Alors, je vous ai coupé, vous alliez dire autre chose.
Non, allez-y.
Je vois sur votre page Facebook que la mairie propose un logement.
Oui. Qui est vacant là depuis peu. Donc un logement, il y a 3 chambres. Donc on espère accueillir une famille avec 2 ou 3 enfants pour notre école. Ce serait tout bénéfique, donc ne pas hésiter à contacter la mairie par téléphone ou mail pour avoir les renseignements, déposer un dossier pour qu'on puisse instruire et puis retenir des locataires et organiser les visites. Voilà, c'est le logement est proposé à 500 euros par mois.
Et vous en avez beaucoup comme ça, des logements à mettre en location au niveau de la mairie,
La mairie est propriétaire de 1, 2, 3 logements.
Les deux autres sont occupés.
Les deux autres sont occupés, oui.
Appel est lancé à ceux qui seraient intéressés et qui auraient envie de résidé à Marais-sur-Loire, pas très loin de la Flèche.
J'ajoute qu'on a aussi encore deux terrains à la vente à
constructible.
Proposer. Constructible. Ouais.
C'est bien, donc ça veut dire que la population à Marais est amenée à bouger, c'est
oui.
votre vœu. Oui. Et au niveau oui. du dernier recensement.
Et au niveau du dernier recensement, eh ben on gagne des habitants. On est à 0,7% d'accroissement depuis le dernier recensement.
Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette dynamique, on va dire, positive?
Eh ben, le fait que ce soit pas loin de la Flèche, pas loin du Mans, pas loin de Paris aussi. Il y a des gens qui travaillent à Paris qui font soit le trajet tous les jours. Il y a des gens qui habitent ici qui ont moins de temps de trajet en habitant ici quotidiennement que les gens qui habitent en région parisienne. Et puis il y a une qualité de vie et le calme qui sont là.
On a les atouts de la campagne et puis à proximité, la Flèche, oui. et puis le Mans n'est pas loin. Il y en a qui vont à Angers, d'autres vont à Tours. Idéalement situé, finalement.
Carrefour, ouais.
Et l'avenir de Marais-sur-Loire, on se projette sur 2023.
Alors 2023, donc je le disais, gros projet, c'est vraiment la rénovation de l'éclairage public, les audits énergétiques. Et puis, on souhaite aussi procéder à la rénovation de notre, restauration plutôt, je dirais, du lavoir communal, qui est un petit peu malade, qui n'est pas prêt à s'effondrer non plus, il ne faut pas exagérer.
Mais c'est un joyau patrimonial,
voilà,
ça.
Tout à fait. Et puis 2023, bon, on a notre projet de MAM qui, donc là, se termine, réception de chantier la semaine prochaine, ouverture
maison d'accueil maternelle,
maison d'assistante maternelle,
c'est ça.
Ouverture en février, et puis on prévoira une inauguration au printemps. Mais voilà, beau projet, on est vraiment très content, tout le monde est content, et c'est tout bénef pour l'école et les nouveaux habitants, puisqu'il y a une pénurie vraiment d'accueil de places de petite enfance.
Et c'est-à-dire que vous allez tout faire pour que ce dossier puisse se concrétiser rapidement parce que les besoins sont là dans l'immédiat.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de demandes. Il y a des communes qui proposent justement des terrains à bâtir, des lotissements. Et quand il n'y a pas de place d'accueil de petite enfance, mais les gens ne viennent pas s'installer, les familles ne viennent pas s'installer. Hein. Ils regardent toujours au niveau, quand ils ont des enfants, évidemment, les familles regardent toujours ça attentivement. Et puis aussi l'accession aux soins. Il y a les déserts médicaux, mais il y a aussi les déserts de places d'accueil de petite enfance. Hein, c'est vraiment un enjeu national.
Marais-sur-Loire, les habitants, pour se soigner, ils font comment ?
Eh ben, pour se soigner, il y a une maison médicale à Luché-Pringer qui est tout à côté. Et d'ailleurs, parmi les médecins, il y a un administré de Marais-sur-Loire qui est déjà très chargé, trop chargé.
J'imagine.
Et puis sinon, la maison de santé, la Flèche.
Et le dossier, j'imagine, en tant qu'élu de la communauté de communes du Pays Fléchois, le dossier de l'hôpital du Bailleul, pour vous aussi, c'est...
Oui, c'est important, dossier, c'est ouais. important de le soutenir... on voit qu'il y a des améliorations. Hein. On voit dans la presse que l'équipe de l'hôpital se mobilise beaucoup. Hein. Il y a un petit peu de renouveau. Donc c'est une bonne chose, mais il y a toujours quand même le sujet des urgences qui est critique. Et puis, alors maternité, au niveau maternité, ça va encore à peu près, mais vraiment les urgences, nous, on est un peu impuissants à notre échelle. Hein,
mais c'est des choses que vous faites remonter, par exemple, au niveau de l'ARS,
oui,
de la préfecture.
Sénateur aussi.
Pour qu'ils se penchent là-dessus, puisqu'on parlait d'attractivité, vous évoquiez les gens qui habitent Marais et qui vont travailler sur Paris, ça y participe aussi de savoir qu'on peut soigner sa famille, oui. se soigner de la façon la plus convenable possible
c'est
et
ça.
Ne pas être confronté à... Ces déserts médicaux dont on parle, des urgences qui ferment, et lorsqu'on en a besoin, on se dit on est dans la panade. C'est un gros sujet, ça.
Tout à fait.
Et donc, développement durable, projet donc d'optimisation de d'économie d'énergie, pourquoi pas que Mareille qui devienne producteur d'énergie, ce serait pas mal.
Alors, producteur d'énergie, je ne sais pas, mais enfin en tout cas essayer de produire nos propres consommations pour les bâtiments appartenant à la commune et l'éclairage public. Et après je vous dis s'il y a du plus, et ben soit ce sera de la revente au réseau ou aux habitants, on verra, mais
et quel mode de production serait
Eh ben plutôt du solaire, hein, du photovoltaïque sur les bâtiments. Après, on n'a pas trop de terrain disponible qui pourrait être dédié à ça. Au niveau de l'éolien, c'est pas possible sur la commune puisqu'on a on est en zone d'exclusion, et puis il y a l'aérodrome juste en face sur la carte. De toute manière, c'est absolument impossible. Et puis il n'y a pas une réelle volonté non plus de notre part de voir développer ce.
Vous êtes contre les éoliennes, Jérôme Prémartin?
Je suis pas favorable du tout. Non.
Voilà, c'est bien ce que je dis.
Oui, non.
Par rapport au paysage, c'est ça?
Oui, paysage, les. Ben oui, enfin, on a des paysages magnifiques. C'est moins gênant le long des autoroutes en pleine Beauce, c'est beaucoup moins gênant qu'en vallée du Loir avec une forêt classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une rivière magnifique, des paysages vraiment magnifiques. On peut pas détruire tout ça. Après, il y a la question de l'éolien en mer. Moi, ça, j'ai pas trop d'avis puisque je suis pas expert sur le sujet. Après, effectivement, si elles sont visibles depuis les plages, c'est pas très réjouissant non plus. Peut-être les éloigner un peu plus.
Peut-être les éloigner un peu plus, avez-vous dit. Et puis aussi appeler de nos voeux à ce que vous ayez plus de moyens, des communes qui disent qu'en matière de dotation, il y a des attentes pour mener à bien des projets. Vous avez des projets, il faut avoir les moyens de les réaliser, c'est ça?
Oui, c'est pas facile. On mobilise tous les leviers, hein, État, région, département, tout ce qu'on peut, Union européenne également. Tout ce qu'on peut mobiliser comme soutien financier, on le fait, c'est dur pour tout le monde. Après, l'État essaie de jouer le jeu comme il le peut. Là, bon, moi j'ai salué lors de mes voeux la volonté de l'État de maintenir les dotations aux collectivités territoriales, voire même de les augmenter. C'était pas arrivé depuis pas mal d'années. Donc peut-être un début de confiance retrouvé entre État et collectivités territoriales, peut-être.
Peut-être, vous l'avez dit deux fois, donc ça veut dire que vous serez vigilant pour voir quelle réalité concrète ça aura.
Oui, très, très vigilant, oui, parce que bon, il y a des discours contradictoires, hein, quelquefois. Par exemple, là je prends la réforme des retraites, il y a la première ministre qui a déclaré samedi dernier que peut-être que les cotisations des employeurs territoriaux seraient réévaluées, alors qu'au départ, avant la présentation du projet de loi, c'était absolument engagé à ne pas toucher aux cotisations des employeurs territoriaux, à la part de cotisation des employeurs territoriaux. Et donc là, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, quoi. C'est un peu comme l'augmentation du point d'indice. C'est une très bonne chose, hein, pour nos agents. Hein. Moi, je dis toujours que si je pouvais les payer encore plus cher, je le ferais par rapport au travail qu'ils font, qui est remarquable. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc l'augmentation du point d'indice, c'est une bonne chose, mais c'était pas prévu. Au moment où on a voté notre budget, on n'avait pas tous les éléments pour calibrer les choses correctement. Alors nous, à Marais, ça a été, hein, on s'est pas trompé là-dessus de beaucoup. Il nous a manqué 1000 quelques euros. Enfin, non, même pas. C'est même pas. On s'est pas trompé puisque L'argent qui nous a manqué au budget au niveau de charge de personnel, c'était par rapport au remplacement de notre secrétaire de mairie qui était en congé maternité. Donc il y a eu un petit peu de dépenses supplémentaires, tout n'était pas exactement prévu, mais l'augmentation du point d'indice, on l'avait prévu de manière assez proportionnée à notre budget, ce qui était moins le cas au niveau de la communauté de communes, où là c'est plus compliqué à prévoir. Donc il y a des fois des mauvaises surprises en fin d'année, et des ajustements budgétaires à faire.
Combien d'agents à Marie ?
À Marie-sur-Loire, il y en a 7.
Secrétaire de mairie.
Oui, oui. Deux agents administratifs, je dirais, deux agents techniques et trois agents polyvalents pour école, cantine, ménage.
Bon courage, monsieur le maire.
Je vous remercie.
Il en faut pour tracer des perspectives pour les habitants et puis les gens qui vous accompagnent dans votre action au quotidien. Leur dire aussi que... à l'impossible, nul n'est tenu, quels que soient les vents contraires. Vous avancez, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. On maintient notre cap. Hein. C'est ce que j'ai dit aussi bien au vœu ou dans mon propos dans le bulletin municipal de fin d'année. Malgré la crise, et je dirais même les crises, les entassements de crise, ouais. Les empilements de crise, on a quand même maintenu notre cap et notre feuille de route qui était définie. Lors des élections de 2020.
On va s'en sortir ?
Oui, oui, bien sûr.
Ce sera peut-être le mot de la fin, puisque vous êtes optimiste. Sachons rester calme, serein et tenir bon dans la tempête, c'est ça le mot de la fin ?
Oui, toujours.
Eh bien, on a été... ravi de vous recevoir, Jérôme Prémartin, et puis d'avoir partagé avec vous ce moment. Déjà près d'une demi-heure qu'on parle.
Déjà.
Ça va très, très vite. Autant vous avez d'autres choses à nous dire, eh bien, on va se les garder, puisque l'année ne fait que commencer. On vous réinvitera pour faire le point sur les sujets d'actualité. Et il y en a beaucoup dont on parlera pour voir comment l'horizon... se situe, hein, à quel horizon on se situe nous-mêmes, comment l'horizon il est fixe, c'est à nous de nous situer par rapport à ça, et puis comment l'année se déroule à Mareilles-sur-Loire, et on vous réinvitera pour venir nous parler de la vie des Mareillaises et des Mareillais.
Avec grand plaisir, et merci encore pour votre invitation.
Plaisir partagé, Jérôme Prémartin, maire de Mareilles-sur-Loire, invité de Radio Prévert en ce début d'année. Merci à vous.
Merci.